Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Il prend l'eau, le plancher menace de s'effondrer et on a la confirmation ce matin que le musée du Louvre n'est pas suffisamment surveillé. On vous révèle en exclusivité sur RMC les conclusions de l'enquête administrative lancée après le cambriolage du 19 octobre. La France est en danger. C'est Nicolas Sarkozy qui dit ça ce matin dans une interview le jour de la sortie en librairie de son journal d'un prisonnier. Et grande opération anti-drogue. Vous verrez cette nuit à Marseille, 1500 policiers déployés en même temps contre les trafiquants qui avaient déjà imprimé des affiches de Noël.
C'est le plus grand musée du monde et pourtant le Louvre est littéralement une passoire.
C'est ce qu'on apprend donc dans l'enquête administrative menée après le vol des Joyeux de la Couronne le 19 octobre dernier. Une audition au Sénat est prévue ce matin. Ce sont les rapporteurs de ce rapport qui seront auditionnés. Alfred Orange pour RMC. Vous nous révélez les conclusions donc de ce rapport accablant sur la sécurité du musée.
À commencer par le PC sécurité du musée jugé trop vétuste qui manque notamment d'écran pour visionner simultanément toutes les images des lieux sensibles du musée. L'enquête démontre qu'une caméra extérieure a bien filmé la nacelle qui se mettait en place pour atteindre la fenêtre du musée, mais que les images n'ont pas été vues tout de suite. Ce n'est que 4 minutes plus tard qu'elles sont apparues sur les télévisions du PC sécurité, faisant perdre un temps précieux aux agents. Des agents pointent l'enquête qui ne sont en outre pas formés pour faire face au vol avec violence. À cela s'ajoute un manque de pilotage global pour la sécurité du Louvre. Alors pour tenter d'y remédier, les auteurs du rapport préconisent de piocher dans les recettes du musée en reversant 5% des recettes de la billetterie au financement de la sécurité.
Et donc les rapporteurs auditionnés au Sénat ce matin. Le Sénat, tiens, c'est la prochaine étape pour le budget de la sécurité sociale. Une lecture express prévue vendredi. Maintenant qu'il a été voté à l'Assemblée, comme prévu, c'était très serré. Ça s'est joué à 13 voix près. Budget qui prévoit la suspension de la réforme des retraites pour les deux prochaines années à partir donc du 1er janvier. Désormais, les ministres de Bercy, Roland Lescure et Méline Montchalin appellent à trouver les mêmes compromis pour le budget général. C'est une grande opération, je vous le disais, contre le trafic de drogue que la police a mené jusqu'à cette nuit à Marseille. Emmanuel Macron doit d'ailleurs s'y rendre la semaine prochaine. 1500 policiers étaient déployés pour des contrôles simultanés dans les quartiers nord de la ville, Romain Hougue.
Oui, une opération dont le but est de cibler en même temps 15 points de deal, la plupart dans le 13e arrondissement de Marseille, dont la cité des Oliviers A, haut lieu phocéen du trafic de drogue. Une sorte d'opération place nette XXL, comme les appelait le précédent ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, mais en version améliorée, a déclaré le nouveau préfet de Marseille, Jacques Witkowski. Opération qui a nécessité la venue de 1300 policiers supplémentaires de toute la France en soutien des 250 à 350 policiers présents quotidiennement dans ces quartiers. Sur place, les accès à la cité sont contrôlés, des chiens détecteurs reniflent les poubelles, les deux roues. Objectif, interpeller des dealers, confisquer la drogue, mais pas que.
Je ne résiste pas à la petite saisie que nous avons fait.
Le préfet tend une affiche aux couleurs de Noël récupérée dans un hall d'immeuble.
Ce qui est distribué dans le quartier pour les fêtes de Noël.
Qu'est-ce qui est marqué ?
Du 25 au 31 décembre, donc chips, boissons, bonbons, etc. Pochons de bœuf ou chips cadeaux. Venez comme vous êtes. Merci de votre passage. À la prochaine. C'est la magie de Noël.
L'objectif, c'est aussi de contrôler les commerces qui peuvent servir à l'économie du trafic. Deux ont d'ailleurs fait l'objet d'une demande de fermeture sur 14 contrôles. En début de soirée hier, le bilan faisait état de 79 interpellations.
On en parlait hier matin à 7h06, la nourrice algérienne sous OQTF accusée d'avoir voulu empoisonner sur fond d'antisémitisme une famille juive dont elle gardait les enfants à Levallois-Perret. 3 ans de prison ont été requis, décision attendue en fin de semaine prochaine. L'antisémitisme a pénétré des lieux qui étaient jusque-là préservés, comme l'école et la sphère privée. Voilà ce qu'a dit le président du CRIF qui était entendu comme témoin au cours de ce procès. Le 320-535, c'est le chiffre à la une ce matin. C'est le numéro d'écrou de Nicolas Sarkozy à la prison de la Santé, dont le livre « Le journal d'un prisonnier », écrit donc durant ses 3 semaines d'incarcération, sort aujourd'hui en librairie. L'ancien président entame même pour l'occasion une tournée de dédicaces. Ça va commencer à Paris, dans le 16e arrondissement, aujourd'hui. Et alors, il donne à cette occasion une interview qui risque de faire parler ce matin. C'est dans l'hebdomadaire Le Point. Sébastien Krebs, chef du service politique RMC, en direct ce matin. Nicolas Sarkozy dit que la France est en danger.
Oui, la situation est grave, juge l'ancien président. Les conditions d'une explosion ont rarement été à ce point réunies, dit-il dans ce très long entretien accordé à Franz-Olivier Olivier Gisbert. Nous sommes à la veille d'un changement de régime, alerte Nicolas Sarkozy, qui décrit une France en danger. On piétine son identité, dit-il, et ses racines judéo-chrétiennes. Nicolas Sarkozy qui raconte dans son livre avoir beaucoup prié en prison, s'est rendu à Lourdes après sa libération, et dans cet entretien, il juge, je cite, que nous ne défendons plus rien, que la laïcité n'est pas une réponse suffisante à un islam conquérant. Les évêques rasent trop souvent les murs, estime-t-il. Quand il y a une statue de la Vierge à l'entrée d'un village, beaucoup de commentateurs sont choqués. Quand il y a un marché halal à la Défense, les mêmes applaudissent, dit-il.
Et alors, Nicolas Sarkozy reparle dans cette interview du Rassemblement National.
Oui, et lorsqu'on lui demande si le RN est dans l'arc républicain, il juge la question étrange. Si l'on considère que le Parti communiste et LFI sont républicains, je ne vois pas pourquoi le RN ne le serait pas lui aussi, explique Nicolas Sarkozy, qui dans son livre plaide pour l'union des droites. Il raconte même avoir promis à Marine Le Pen de ne plus s'associer au Front républicain. L'ancien président, qui avait tourné le dos à son propre parti pour soutenir Emmanuel Macron, normalise aujourd'hui le RN au point de comparer Jordan Bardella à Jacques Chirac. Quand j'ai rencontré Bardella, raconte Nicolas Sarkozy, il m'a fait penser au RPR au temps de Jacques Chirac. Son discours n'est pas très différent d'une autre à l'époque, une sortie qui risque de faire beaucoup réagir au sein de la droite.
Sébastien Krebs, chef du service politique d'RMC, est noté qu'à 8h30, mon invité, ce sera précisément le député RN Sébastien Chenu, dont on apprend, à travers les lignes du livre de Nicolas Sarkozy, que Sébastien Chenu lui a adressé de nombreuses lettres, des longues lettres à Nicolas Sarkozy lorsqu'il était en prison. J'interroge bien sûr Sébastien Chenu dans un instant là-dessus.
Autre ancien président en prison au Brésil, Jair Bolsonaro, qui purge depuis le mois dernier une peine de 27 ans de prison pour sa tentative de coup d'État après sa défaite à la présidentielle. Et bien cette nuit, les députés brésiliens ont voté une loi pour alléger sa peine à seulement un peu plus de 2 années. Une première mondiale, et on en parle depuis très tôt ce matin sur RMC, c'est l'Australie qui interdit les réseaux sociaux, toutes les plateformes, au moins de 16 ans pour les protéger. Le ministre, premier ministre australien se félicite, dit-il, de reprendre le contrôle. On est à 6 mois de la Coupe du Monde de foot. Et alors ça aussi, c'est une grande première. On se dirige bel et bien vers un show à l'américaine, puisque les mi-temps seront maintenant coupés en deux par des pauses publicités. Alors officiellement, ce sont des pauses fraîcheurs qui seront systématisées, mais ça va permettre aux diffuseurs de passer de la pub, Nicolas Pelletier.
Oui, une révolution pour le monde du football. Pendant tous les matchs du Mondial 2026, à la 22e minute et à la 67e minute de jeu, les joueurs vont réaliser une pause fraîcheur. Pendant cet arrêt de jeu, les téléspectateurs verront des publicités apparaître à l'antenne, une première pour du football. L'instauration de ces pauses avec un timing très précis est une très bonne nouvelle pour les diffuseurs. Ils pourront vendre des publicités à des montants très importants. La FIFA répond à une demande des diffuseurs américains de la compétition qui pratiquent déjà ce système dans d'autres sports. Autre nouveauté pour ce Mondial 2026, la FIFA a décidé de rallonger la pause de 15 minutes à la mi-temps de la finale de la prochaine Coupe du Monde le 19 juillet. Cette décision doit permettre d'organiser un grand show télé avec des artistes à l'image du Super Bowl.
En attendant, suite de la 6e journée de Ligue des Champions pour Paris ce soir 21h sur RMC, Paris qui jouera à Bilbao contre l'Athletic au lendemain de la victoire de Marseille 3-2 chez l'Union Saint-Gilloise et de Monaco 1-0 contre Galatasaray. Je vous signale aussi que ce soir il y aura le quart de finale du Mondial féminin de handball, la France qui joue contre le Danemark.
C'était le journal de Quentin Vinet.